RMC After Marseille.
Karine Galli.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'After Marseille. Il reste deux journées de championnat pour que cette journée, pour que cette saison apocalyptique de l'Olympique de Marseille se termine. On va en parler de la situation à l'OM avec Aurélien Tircin. Salut Aurélien.
Salut Karine, salut à tous.
Et nos deux invités, nous avons la chance d'avoir Laurent Bonnard, ancien joueur de l'OM. Lui, il a connu les belles heures de l'OM. Le dernier titre de champion de France, c'était en 2010 et il faisait partie de la bande, évidemment, de Didier Deschamps. Merci Laurent d'être avec nous.
Merci à vous, bonsoir Karine.
L'OM de 2010, l'OM champion de France, ça nous paraît bien loin. Il a tout connu, il nous relaye au jour le jour l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est le chef du service des sports de la Provence. C'est un bonheur de l'avoir à nos côtés, c'est Alex Jacquin. Salut Alex.
Salut Karine, salut Laurent, salut à tout le monde.
On va parler de l'Olympique de Marseille. Messieurs, il est temps que ça se finisse. Il ne reste plus que deux matchs. Il y aura le Havre et puis il y aura la réception de Rennes. Le dernier rendez-vous entre les joueurs et leurs supporters. Et ça s'annonce compliqué. On va se demander où va l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on va en tout cas évoquer la situation actuelle. Vous l'avez sûrement lu sur rmcsport.fr. C'est l'OM qui garde ses joueurs à la commanderie. On ne peut pas parler de séquestration, mais en tout cas, cette mise au vert XXL continue. Elle a commencé lundi. On rappelle qu'évidemment, il y a eu un énième fiasco, c'était sur la pelouse de Nantes, une défaite 3-0. Alors Laurent, tu as connu évidemment des très beaux moments à l'Olympique de Marseille, avec notamment ce titre de 2010, mais il y a eu également des périodes compliquées. On se souvient qu'en interne, avec José Anigo, qui était directeur sportif, et avec Didier Deschamps, qui était l'entraîneur, il y avait beaucoup de soucis. Est-ce que tu as connu des mises au vert à Marseille? Est-ce que tu as connu des périodes de tension? Alors peut-être pas comme on est en train de vivre, parce que là, on a l'impression que c'est encore quelque chose de nouveau, mais est-ce que tu as connu des choses assez similaires?
Oui, j'ai connu ma première année en 2007, premier début de saison compliqué avec Albert Raymond. Et c'était juste avant la réception du PSG. Effectivement, on a eu cette mise au vert un peu allongée sur la semaine pour préparer le match de Paris. Donc on a dû passer 4 ou 5 jours ensemble avant le match de Paris. C'était après une défaite, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était Valenciennes, on doit perdre 2-1 là-bas. Et la direction, le club avec Albert Raymond décide de nous mettre au vert avant ce match de Paris. Après, j'en ai pas connu d'autres aussi longues en fait. En Coupe d'Europe, ça pouvait arriver parce que les déplacements partaient la veille, voire l'avant-veille, mais pas de cette sorte-là en ce moment pour les joueurs de l'OM, effectivement.
Alex, le résultat de ces mises au vert, on l'a vu pour l'instant, il est extrêmement négatif. Parce que bon, alors il y a eu le stage, tu rentres de Marbella, tu vas à Lorient, tu perds. Tu fais une mise au vert qui est finalement un petit peu allégée, tu vas à Nantes, tu perds. Pourquoi finalement l'état-major marseillais s'entête dans cette décision? Et est-ce que tu peux nous rappeler aussi vraiment qui prend cette décision? Parce que même dans cette décision-là, il y a un petit peu des tendances contraires. Pas tout le monde avait envie de faire cette mise au vert XXL, visiblement.
Ben là... Là, sur ces méthodes-là, sur cette stratégie-là, on atteint le paroxysme de la méthode Benatia, quoi. En fait, ça vient plutôt de, enfin, c'est des idées à lui, à l'italienne, quoi. Il y avait eu le Ritiro l'année dernière qui avait bien fonctionné. Attention, hein, l'année dernière à Rome. Cette saison, ça fonctionne pas du tout. Il y a eu Marbella qui a pas fonctionné. Et ensuite, maintenant, c'est des mises au vert à la commanderie. On a vu le résultat, on a vu ce que ça a donné après, c'était catastrophique contre Nice au Vélodrome, c'était pas bon. Là, à Nantes, bon, faut être clair, il y a eu une démission collective de tous les joueurs. Je me demande ce que ça va donner au Havre dimanche, parce que les joueurs, là, c'est vous avez donné les détails sur RMC, nous aussi, l'équipe aussi. Enfin, il y a de gros problèmes en interne. Je vois pas en quoi ça va apaiser les tensions maintenant, à une semaine et demie de la fin de saison, quoi. Parce que qu'on ne me dise pas qu'ils vont faire du travail foncier, du travail physique, qu'on ne me dise pas qu'ils sont là pour souder le groupe, sachant que là, la saison, déjà, la Ligue des Champions est quasiment est terminée. La qualification directe, l'objectif 3e place est terminé. La 4e place, il faudrait un miracle absolu pour que l'OM soit 4e. Donc, en fait, à quoi ça sert? Je ne sais pas, si ce n'est pour assouvir une supériorité hiérarchique. Alors nous, on croit savoir qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur la durée. Donc après, évidemment, forcément, il faut chercher des solutions pour remotiver tout le monde. Mais là, quand on voit que ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est la solution inverse qu'il faudrait appliquer. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais en 1991, Bernard Tapie, il avait enfermé tout le monde avant Barry. Et l'OM avait perdu. Il s'était dit, ça, c'est une erreur, peut-être de les avoir barricadés, les avoir coupés du monde. Et ben, 2 ans après, avant Munich, c'était open bar en Bavière, dans l'hôtel, où ils étaient tranquilles ensemble. Et puis c'était un peu la colonie de vacances et ils avaient gagné. Donc peut-être qu'il faut savoir se remettre en question et se dire, j'ai pas pris la bonne décision.
Oui, bah moi je suis d'accord avec Alex parce que ça ne marche pas. Si les gars ne s'entendent plus, s'ils n'ont plus envie d'être ensemble au jour le jour, il y a le cas Mason Greenwood qui complique encore un petit peu tout ça. Mais à la limite, laisse-les à la maison, tu viens jouer en tong. Moi j'ai très peur du match au Havre évidemment. Après, éventuellement, oui, tu peux agripper, accrocher une place en Europa, en Conference League, ça sera déjà pas mal. Moi, j'ai pas envie de mettre tous les joueurs à la poubelle, on en parlera certainement plus tard. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va la saison prochaine, avec qui Mais oui, ce retiro, cet énième retiro à la commanderie, ça doit être insupportable à vivre. Les mecs qui mettent plus un pied devant l'autre. Donc franchement, ne nous infligeons pas ça. Passons à autre chose et restez à la maison. Ressourcez-vous. Et peut-être même que quand tu es chez toi sur ton canapé, tu réfléchis et tu as envie de faire mieux la prochaine fois. Parce que là, c'est uniquement une punition. Et effectivement, ça ne marche pas du tout. À moins qu'on nous fasse mentir et que le match au Havre soit très bon. Mais j'ai du mal, beaucoup de mal à y croire.
Nous sommes avec Laurent Bonnard, ancien Olympien de 2007 à 2010. Laurent, un mot sur les propos de Mehdi Bennassia. Après Lorient, ça a été extrêmement dur. Il a vraiment pointé du doigt les joueurs. Par le passé, il avait déjà pointé du doigt certains joueurs. On se souvient évidemment, il y avait eu le cas avec notamment Jonathan Clauss. Il y avait eu le cas également avec Wai. Là, c'était vraiment collégial. C'était tous les joueurs. Comment toi, tu percevais ce genre d'attaque, sachant que c'est un ancien joueur, mais c'est aussi quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est ta direction. Est-ce que c'était un électrochoc positif ou ça marchait jamais? Parce que là, la réponse qu'on a eue sur le terrain derrière, c'est plutôt on en a marre de ces critiques incessantes et on en a marre d'être toujours pointé du doigt. Finalement, leur orgueil n'a pas vraiment été piqué au vif, j'ai l'impression.
Non, alors j'ai pas connu ce genre de déclaration agressive et qui visait tout un groupe ou certains joueurs, honnêtement. Mais il est clair que nous, en tant que joueurs, effectivement, tout à l'heure, j'ai entendu le mot, ce sont des hommes avant tout, les joueurs, les sportifs, et c'est quand même très compliqué, la situation, elle est difficile. Donc, si vous rajoutez des critiques en interne de votre direction, bah, en fait, au bout du compte, ça devient, il y a une scission qui se crée, et en fait, bah, vous faites l'effet inverse de ce que vous voulez avoir. Alors, si on reparle un petit peu de ces mises au vert, qui pour moi en fait, oui ça peut marcher, ça peut être intéressant ponctuellement sur des périodes, sur ce moment-là, mais là quand c'est répété, vous coupez en fait toute l'énergie que les garçons peuvent récupérer chez eux, et surtout de pas marronner la situation, parce que là la situation elle est critique, elle est difficile, les joueurs en sont conscients je pense, et donc si vous êtes en mise au vert, vous êtes en fait les pieds dans la boue tout le temps. Vous sortez pas la tête de l'eau, vous êtes tout en dedans, vous pensez qu'à ça. Et c'est des garçons, les garçons, bah, ils ont effectivement des femmes, des enfants. Et même si la période est difficile, je pense que humainement, ils ont besoin d'avoir de l'émotion positive à travers leur vie privée pour essayer de redonner sur le terrain. Alors effectivement, en plus, il y a pas de garantie aux mises au vert. Il y a pas de statistiques qui nous prouvent que la mise au vert est forcément gagnante. Et là, le fait de le répéter, bah, en fait, vous éloignez votre rendement collectif de ce qu'on recherche. Donc, ce week-end, faut gagner. Le week-end prochain, faut gagner. Mais en fait, là, vous êtes dans l'effet contraire. De ce que je ressens, de ce que j'ai ressenti dans ma carrière, certaines mises au vert. Surtout que là, on pense quand même que c'est quand même quelque chose c'est moins de l'entraîneur et plus de la direction. En fait, ils balancent la patate chaude. C'est-à-dire que eux, ils estiment que, en gros, ils ont fait leur boulot. Les gars, on les a mis au vert, on a fait notre boulot, après à eux de se débrouiller sur le terrain. Ben, en fait, il n'y a pas d'unité. Ça prouve qu'il n'y a pas d'unité entre la direction et leurs joueurs. Et là, c'est dommage. Et les joueurs doivent le ressentir comme ça. Donc, en fait, c'est l'effet inverse que les joueurs ont besoin, que le club a besoin pour atteindre un objectif qui, effectivement, n'est pas le meilleur aujourd'hui. Mais au moins obtenir une qualification en Coupe d'Europe, ça serait intéressant. Mais là, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Un manque d'unité. Alex, tu suis l'OM depuis très longtemps, tu en as connu des crises. Aujourd'hui, c'est quoi l'issue? Est-ce que le divorce, il est évident avec Bennassia, avec Bey, avec les deux? Comment se situe l'intégralité des joueurs? Parce que c'est vrai que toute la saison, elle a été émaillée par des sorties, notamment dans les médias, assez fracassantes, assez marquantes.
Mais là, en fait, on est sur une fracture totale. Là, on est sur, c'est même plus un divorce, ça devient du grand n'importe quoi. Une partie des joueurs, et notamment leurs agents, leur entourage, se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là encore? Parce qu'après, faut savoir aussi les répercussions que ça va avoir sur la suite, sur l'image de l'OM. Après, le Habib Bey, on va pas l'enfoncer, il est venu là faire le pompier de service, ça n'a pas marché. Ce qui m'interpelle un petit peu, moi, dans cette histoire-là, c'est que je trouve que la saison n'était pas finie après Lorient. Et quand on a vu l'état des joueurs sur le terrain à Lorient, on se dit, il se passait un truc, il se passe un truc, ils sont en train de lâcher le club là. Et peut-être, alors peut-être c'est une hypothèse de journaliste, mais peut-être qu'il eût été intéressant et judicieux à ce moment-là d'avancer ou de tout du moins de lever un peu de pouvoir à Mehdi Benatia sur les 4 dernières semaines et quitte à aussi se séparer d'Habib Bey sur les 4 dernières semaines et de faire une mission commando avec Pancho Abbandonado qui lui en s'entend bien avec lui. Je veux pas vendre Abbandonado à tout prix, mais à un moment donné on est sur une mission commando, là on travaille plus les automatismes, on travaille plus le physique, on travaille le mental et l'esprit. Et en fait il a été décidé d'appliquer la méthode dure, la méthode du fouet, la méthode à l'ancienne du professeur d'école qui punit quoi qu'il arrive. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et finalement, en 4 matchs, l'OM, après Lorient, l'OM pouvait encore tranquillement avoir la 3e place. Hein. Match nul contre Nice, défaite à Nantes, c'est terminé. Voilà. Donc la saison, elle s'est jouée. Enfin, elle a été tout au long de la saison, les Olympiens ont perdu une chance d'aller en Ligue des Champions. Mais vraiment, la bascule, elle s'est faite ces 2 dernières semaines. Il y a eu une mauvaise stratégie au niveau de la direction du club. Mais quelle direction? Le problème, c'est qu'il y a un président intérimaire qui n'a pas les pouvoirs. Le pauvre, il peut pas décider lui de dire. Et ensuite, le futur président arrive en juillet. Donc en fait, c'est cette vacance de pouvoir qui fait qu'on a laissé le pouvoir à Mehdi Benatia, qui a fait ces choix-là. Ces choix-là, maintenant, ben, ils n'ont pas été bons. Il va falloir les assumer. Tant pis, l'OM n'ira pas en Ligue des Champions. Mais je trouve que il y a 2 semaines, après Lorient, enfin il y a 2 semaines et demie, on aurait pu peut-être envisager terminer la saison avec une mission commando de 4 matchs. Ça se faisait, ça aurait pu se faire, quoi.
Aurélien, ce qui est complètement fou, c'est que l'été dernier, nombre de joueurs qui venaient à l'Olympique de Marseille disaient « Je viens parce que Roberto De Zerbi, bon, il n'est plus là, mais aussi parce que Mehdi. » Ils l'appelaient tous Mehdi, c'était Mehdi Benatia, c'était l'ancien joueur, etc. Alors que là, on en est arrivé avec, évidemment, Roberto De Zerbi qui est parti, mais aussi une rupture quasiment totale entre ce même Mehdi et les joueurs qui, lui, on le voit quand il parle, il a encore une âme d'ancien joueur, on sent qu'il est encore très proche du terrain, etc.
Bah et alors moi à la fin le bilan que j'en tire c'est qu'il surjoue aussi ce côté ancien joueur grand club avec voilà la sévérité, il va falloir être à 100% investi au top pour l'Olympique de Marseille, mais à l'arrivée pour moi il est beaucoup trop sévère et sur plein de sujets. Tu as parlé de Jonathan Clauss. Malgré la situation de Nice qui est catastrophique, Jonathan Clauss qui a eu des problèmes aussi à Nice, ça reste un des latéraux qui a le plus de stats en Ligue 1. Il a des stats assez exceptionnelles offensivement. Moi, pour moi, alors je sais que certains Marseillais vont me casser du sucre sur le dos en disant ça, mais pour moi, Jonathan Clauss, il a encore sa place en tant que latéral droit aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Bon, c'est de l'histoire ancienne, mais après, tu as l'histoire Rabiot-Raw, trop sévère, tu tournes la page trop vite, tu changes beaucoup de choses dans le club, et Mehdi Benatia, il prend ses responsabilités finalement, ça ne marche pas ce qu'il a fait au bout de 2 ans à l'OM. Et pourquoi tu le fais rester avec autant de pouvoir? À la rigueur, oui, il fait une espèce de transition, va nous chercher un remplaçant, mais là, c'est évidemment, comme disait Alex, pas lui de prendre cette décision-là. D'ailleurs, il choisit un entraîneur alors qu'il est démissionnaire. Enfin, c'est vrai qu'on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Pourtant, effectivement, des crises et des très graves, il y en a eu à l'OM, mais là, c'est que des mauvaises décisions, les unes après les autres, et c'est de plus en plus grave. Parce qu'il faut se rappeler que cette saison, il y a eu des très bons matchs faits par l'OM. Les 11 qu'on voit se traîner sur la pelouse de la Beaujoire, c'est les mêmes qui ont fait des excellents matchs en Ligue des Champions. Quand tu bats Newcastle, quand tu bats l'Ajax, quand tu bats le Paris Saint-Germain, même le Trophée des Champions qui est peut-être la bascule négative de la saison de l'OM quand tu fais deux, enfin tu encaisses l'égalisation à la dernière seconde. C'est des excellents matchs avec des excellents joueurs. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que tu as la pire équipe de l'OM depuis 10 ans, quoi.
L'Olympique de Marseille, cette saison chaotique, on en parle évidemment dans l'After Marseille avec Aurélien Tirsain, avec nos invités, Laurent Bonnard, ancien joueur de l'OM, et avec Alex Jacquin, qui est le responsable du service des sports de la Provence. Vous suivez l'After Marseille, retour sur une saison chaotique. Où va Marseille? Peut-être dans le mur. On en parle évidemment avec Aurélien Tirsain, avec notre invité, c'est Laurent Bonnard qui a porté les couleurs de l'OM de 2007 à 2010. Alexandre Jacquin qui suit au quotidien l'actualité invité de l'OM pour le journal La Provence et qui effectivement avait vu qu'il y avait quand même quelques bémols à mettre dans cette saison marseillaise parce qu'elle avait pourtant bien commencé. On va justement refaire le récit, messieurs, du moment où peut-être tout a basculé. Nous sommes le 11 février à 2h35 du matin. Et oui, là, on nous fait un petit communiqué. De Zerbi quitte l'Olympique de Marseille. On nous parle d'une fin de collaboration, d'un commun accord entre donc l'Italien et le club marseillais. Puis, il y a également le vrai faux départ du directeur du football. On rappelle que Mehdi Benassia, il va démissionner via ses réseaux sociaux. C'est le dimanche 15 février 2026. Et finalement, le 16 février, il y a un communiqué de l'OM pour dire qu'il reste. Et c'est Longoria qui est déclassé. Benassia, lui, va piloter l'ensemble des activités sportives et il sera en charge du choix du futur entraîneur. Justement, le futur entraîneur, c'est Abby Bey qui est nommé le 18 février. Entre-temps, il y a Longoria qui avait été mis sur la touche, qui quitte officiellement le club le 23 mars. Il aura passé 6 ans au club, il était arrivé en juillet 2020. Et puis, il y a la nomination de Stéphane Richard comme président de l'OM. Ça, c'est annoncé le 10 avril 2026. Et vous qui aviez eu l'information, Alex, pour le journal La Provence. Et il prendra ses fonctions en juillet 2026. On va voir le avant-après. Donc, quand Roberto De Zerbi, on l'a tous dit, la saison n'est absolument pas ratée. Et pourtant, il y a eu des épisodes. Il y a eu, évidemment, l'élimination calamiteuse, notamment en Ligue des Champions. Il y a eu le pire résultat lors d'un classique face à Paris avec cette défaite cinglante et De Zerbi qui quitte l'OM après 21 journées de championnat. À ce moment-là, l'OM est quatrième avec 39 points. Et aujourd'hui, l'OM est septième avec 53 points après 32 journées. Donc, c'est dire si la chute est terrible. Laurent, comment tu vois cette dégringolade? Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'épisodes dans cette saison mouvementée. Mais lorsque Roberto De Zerbi décide vraiment de partir, parce que visiblement, il n'a plus le soutien total ou la cohésion qu'il faut avec son vestiaire, la saison pouvait être encore belle. Finalement, elle sera complètement gâchée. Est-ce que c'était une erreur de nommer Abby Bey qui est sorti d'une épreuve, on va dire compliquée, en tout cas d'une situation compliquée avec Rennes où il avait aussi des problèmes avec son vestiaire. Et est-ce que, effectivement, comme le disait Aurélien, c'était un directeur du football démissionnaire de choisir le nom du futur entraîneur? Parce qu'à la base, bon, là, on imagine qu'Abby Bey ne va pas rester, mais il s'est quand même engagé pour plusieurs saisons. Donc l'idée, c'était de reconstruire avec lui un petit peu.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça paraît un petit peu loufoque de donner les pouvoirs à Mehdi Benassia pour le nouvel entraîneur alors qu'il était démissionnaire. C'est déjà de l'incompréhension totale et qu'il y a des choses qui ne sont pas bien en place dans le club. Et c'est sûr que ça a rajouté encore des difficultés dans la gestion, mais aussi sur le vestiaire. Enfin, bon, en fait, cette saison, elle est calamiteuse parce qu'en fait, c'est constamment des erreurs de casting, de choix, de direction, de plein de trucs, de soutien. Enfin, on sent pas un club qui est uni du haut vers le bas. Les joueurs le ressentent parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, que cette équipe, voilà, elle a été capable de faire des très bons matchs. Elle a été capable de se maintenir là-haut dans les trois premiers pendant longtemps. Mais par contre, elle a subi sur certains matchs des déconvenues comme à Bruges. La perte en Coupe de France de 2 chez eux avec les tirs au but. Bon, il y a pas mal d'événements qui, en fait, sur des matchs, ont fait ressortir les lacunes mentales de ce groupe, mais en fait qui se sont en plus amplifiées avec le temps et avec les décisions et tout ce qui s'est passé dans le club. En fait, malheureusement, il y a pas mal d'événements, donc on peut pas dire qu'un joueur, lui, il est nul, il est devenu nul. Non, ils sont pas devenus nuls. Les joueurs ne sont pas devenus nuls. C'est cette saison qui, en fait, ils ont creusé la tombe pour se mettre dedans. Et c'est vrai que c'est vraiment une répétition d'erreurs. Et la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, mais en fait, l'année prochaine, il y aura toujours du football à Marseille. Il va falloir reconstruire. Avec qui? Comment? Et ça, c'est compliqué. Et moi, en tant que joueur, je venais pas à Marseille ou dans un club pour quelqu'un. On vient parce que c'est l'Olympique de Marseille. Et en fait, on vient parce que c'est des émotions qui transpirent. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, vous vivez une année à Marseille, c'est comme si vous en vivez 10 ailleurs. C'est un métier là-bas qui est extrêmement prenant, compliqué. Mais après, à un moment donné, bah, vous le savez, Et c'est là où justement le mental doit prendre le pas, et on attend les joueurs sur ces deux derniers matchs comme ça. On les a perdus, on les a perdus. Peut-être qu'effectivement dans l'effectif il n'y avait pas assez de leaders, de vrais leaders pour tenir cette barre. Mais en même temps il n'y avait aucun soutien derrière. C'est-à-dire que c'était extrêmement compliqué. Donc franchement j'ai rarement vu, je pense, à Marseille autant de déconvenues, de problématiques. Alors que oui, effectivement, on a dit tout à l'heure que Marseille avait à un moment donné, après Lorient, avait les capacités de bien finir encore. Eh ben non. Non, non, non. Je pense qu'il y avait, malheureusement, le ver était trop implanté dans le fruit. Il a continué à grignoter, continué, continué. Et les erreurs se sont accumulées, cumulées. Et franchement, il y aura un sacré bilan à faire en fin de saison, et des choses à mettre en place si l'OM veut redorer un peu son blason et surtout être à la hauteur de ses supporters et de ce peuple marseillais qui n'attend qu'une chose, c'est de vivre des émotions avec des vraies valeurs, tout simplement.
Et ce qui est intéressant dans ce que dit Laurent, c'est avec qui on va reconstruire derrière. Parce que moi aussi, ce que je trouve dommage dans ces retiros-là, de ces mises au vert de fin de saison, c'est si tu fais pourrir le groupe encore plus que ce qu'il n'est déjà. Parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif et à une échelle différente. Mais moi, je pense à Lens, par exemple. À un moment donné, Thomasson est resté sur le banc. Malanxar, il est un petit peu à la cave. Et là, cette saison, c'est des cracks absolus et ils veulent les garder pour la Ligue des Champions la saison prochaine avec Lens. À Marseille, un Facundo Medina, un Pierre-Emile Højbjerg, Timothy Weah, Igor Peschão, Emerson, pourquoi pas un Vermeeren, même s'il va coûter de l'argent. Mais tous ces mecs-là, moi, j'ai envie de les voir quand même, parce que j'ai vu des excellents matchs de leur part, et je pense pas que ça soit des tout mauvais, et vu les finances de l'OM, je suis pas sûr qu'on puisse reconstruire un effectif à 100% pour la saison prochaine. Donc j'ai pas non plus envie qu'on remette un énième coup de balai intégral, qu'on reparte à zéro, et qu'on doive reconstruire de rien du tout, comme au début de l'ère Longoria, on va faire un projet à 3 ans avec deux herbiers, etc. Je pense qu'il faut un gardien solide, un très bon défenseur, un coach qui ait les épaules pour l'Olympique de Marseille, évidemment, mais sans forcément que ce soit la hype deux herbiers. Et surtout, juste du sang-froid, attendre. Parfois, ça peut mal se passer. Effectivement, l'OM, c'est plus compliqué qu'ailleurs, c'est plus brûlant, plus volcanique, mais il faut avoir enfin du sang-froid et enfin attendre quelques matchs que ça se passe bien et peut-être qu'on aura le droit à du bonheur enfin un jour à l'Olympique de Marseille. Mais il faut arrêter de mettre des coups de balai en permanence.
Et on rappelle qu'en plus il y a pas mal de joueurs qui ont été prêtés dans différents clubs et qui doivent revenir normalement parce que contractuellement parlant ils sont liés à l'OM. Alex, ce qui est fou par rapport à ce que dit Laurent, parce qu'il parle de problèmes de mental, effectivement d'absence de leader, alors qu'en fait on nous a justifié à chaque fois au niveau de la direction, lorsqu'on pointait du doigt le côté la commanderie devient un terminal de Marignane, c'est juste justement parce qu'on est obligé de faire des changements, parce qu'il y avait des petites erreurs, parce que là, vous allez voir, on a pris des joueurs qui ont le mental, qui ont un CV, qui ont l'ADN OM. C'est aussi ça, peut-être, leur plus gros échec. C'est-à-dire que tous ces joueurs qui ont été soi-disant soigneusement choisis par la direction de l'OM, sur le terrain, ils n'apportent absolument pas ce qu'ils devraient, alors qu'effectivement, ils ont aussi de la qualité. Mais pourtant, il y a parfois des joueurs, et Benjamin Pavard, ce n'est pas le seul, qui ont été en deçà de tout ce qu'on nous avait décrit comme portrait robot du joueur de l'OM qui avait été recruté.
Mais oui, mais Aurélien avait raison tout à l'heure quand il parlait notamment de Clauss. Il avait raison aussi quand il parlait de... ce sont les mêmes joueurs qui sont là aujourd'hui et qui sombrent totalement à Nantes et qui avaient fait des super matchs à Madrid, notamment en début de saison. Le problème, c'est que le principal souci cette saison dans ce club, ça a été le management. Le management de l'équipe, le management au niveau de la direction. On a des joueurs, par exemple, je vais citer le nom d'un joueur, c'est Murillo, qui était un joueur de devoir quand même, qui a vécu une saison compliquée, non mais qui a vécu une saison compliquée il y a 2 ans, qui s'est quand même imposé, qui était sérieux. Murillo, il est parti en 2 jours, parce qu'on allait savoir pourquoi. Voilà, l'investissement, il n'y a plus d'investissement, alors qu'il était cité en exemple 3 jours plus tôt. Adrien Rabiot, je vais revenir encore une fois sur Adrien Rabiot, j'ai l'impression de revenir chaque fois sur le même sujet, mais Adrien Rabiot, nous on fait l'interview qui paraît le 9 août, je reçois des messages SMS de la direction pour me dire que c'est un joueur formidable, et formidable interview, et bravo, et c'est un joueur exceptionnel, et c'est un leader de vestiaire comme on n'en a jamais vu. Une semaine après, il est viré. Donc le problème en fait, c'est qu'il n'y avait aucune stabilité et aucune acceptation de la contradiction ou de la remise en question d'une stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Ils sont persuadés d'être dans le vrai, d'être dans le juste. Et bien, la réalité, c'est qu'on a pu leur laisser du temps. On voit aujourd'hui où en est l'OM. Ils n'étaient pas forcément dans le juste quand ils ont décidé de virer Adrien Rabiot et Jonathan Roux. Donc, malheureusement, c'est les joueurs se sont écroulés, mais on leur a mis les conditions pour s'écrouler aussi. On les a pas mis dans les bonnes conditions. Un Timothy Weah, avant de venir à l'OM, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Adrien Rabiot pour savoir comment ça se passe. Il avait des doutes. Il avait des doutes. Savoir exactement comment ça se passe, le contexte et tout. Il avait juste des, enfin, des doutes, des questionnements. Il se posait des questionnements sur l'OM et sur Marseille. Adrien Rabiot le rassure. Une semaine après, vous voyez, il arrive, Rabiot n'est plus là. Comment vous voulez que ça se passe? Comment vous voulez que ça se passe aussi au niveau des agents, des entourages des joueurs quand on voit comment ils sont traités aujourd'hui? Donc ça ne pouvait pas bien se passer. Forcément, ça allait se terminer mal. Mais jamais personne autour du club de penser que ça allait se terminer de cette façon, et on est très inquiet pour la suite. Il faut espérer maintenant un peu de stabilité, un peu de bienveillance, faut espérer aussi une humilité, parce que la situation financière est très très compliquée. Il va falloir passer la DNCG, le fair play de l'UFA, le fair play financier de l'UFA, il va falloir aussi revenir dessus, donc ça va être assez compliqué dans les semaines et les mois à venir.
On rappelle que Marseille est toujours aussi inconstant. Il y a cette problématique. Il faut remonter à la saison 2010-2011 et 2011-2012 pour voir l'OM jouer 2 années de suite la Ligue des Champions. C'était sous l'ère Didier Deschamps. Dernière question, Alex, parce que on a l'impression que rien n'a forcément vraiment avancé au niveau du directeur du football ou du directeur sportif. On verra comment il sera nommé. Mais parce que lui, c'est évidemment la pierre angulaire maintenant du projet. Stéphane Richard, ouais. On espère qu'on n'entendra pas souvent parler, parce que c'est-à-dire que ça sera un président qui aura pris de la hauteur, etc., qui va pas s'occuper du sportif, mais le sportif, là, il y a toujours un gros point d'interrogation.
Ben, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un président qui préside et qui supervise un peu tout, toutes les strates du club, ce que ne faisait pas Longoria, qui est vraiment un profil football. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se tromper sur le directeur du football, le directeur sportif, parce que là, tout reposera sur lui dans la construction d'un nouvel effectif, dans la gestion d'un mercato avec des finances très très restreintes, voire nulles. Donc on attend, pour l'instant, il n'y a rien qui se... Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui se concrétise et il n'y a pas d'avancée notable à 7h, ce jeudi 7 mai à 16h, quoi, à 17h, quoi, parce que là, on n'a pas. Après, ça peut bouger très vite, attention, s'ils prennent une décision, mais pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations sur le fait que quelqu'un ait été choisi, et ça commence à devenir un petit peu inquiétant et long, parce qu'il faut construire l'effectif de la saison prochaine, il faut faire partir des joueurs, parce qu'il faut certainement en céder avant la fin du mois de juin et l'exercice comptable de cette année, donc ça peut être le mois de juin peut être un petit peu compliqué, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous. Laurent, tu te proposes en tant que directeur sportif ou directeur du football à l'Olympique de Marseille?
Non, avec beaucoup d'humilité pour ces métiers-là et les gens qui l'exercent. Non, j'ai pas cette prétention-là. D'ailleurs, voilà, moi, mon regard, il est d'ancien joueur. Je connais le club, mais j'ai pas la vérité. Tout ce que je sais, c'est que le sport est une incertitude. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire que il y a de très bons joueurs. Et en fait, c'est le management a fait que ça a fait ressortir certaines lacunes. Et vu qu'elles se sont répétées et se sont accumulées, et ce qui fait qu'on a une fin de saison très très compliquée, parce que là, les garçons sont touchés, ils n'arrivent pas à se remobiliser, et en plus avec cette répétition de mise au vert, vous avez tout le temps la tête dans le seau, bah, en fait, ça amplifie la problématique. Donc non, moi je reste à ma place, je suis fervent supporter de Marseille, et j'espère vraiment que sur les deux derniers matchs, ils vont faire quelque chose, parce que quoi qu'il se passe, l'année prochaine, il y aura du foot à Marseille. Et voilà, il va falloir repartir de l'avant, il va falloir reconstruire, mais voilà, il faut y penser. Effectivement, on ne sait pas comment ça va repartir, avec qui, mais il va falloir sérieusement y réfléchir et surtout avoir de l'unité dans ce club et que bah, peut-être laisser du temps au travail. Il va falloir aussi que le monde, les supporters, acceptent peut-être que pendant 1 ou 2 ans, 3 ans, il y aura des années de transition. Alors bien sûr qu'ils veulent toujours la Ligue des Champions, ce qui est normal. Mais on l'a vu à Paris, Luis Enrique a eu le temps pour travailler, il était très critiqué, et aujourd'hui il profite de son travail et il est récompensé, et ce groupe est récompensé. Donc pourquoi pas s'inspirer des choses que font les autres, des bonnes choses, même des clubs comme Lens effectivement qui fonctionnent bien cette année. Voilà, il n'y a pas que des choses qui sont mauvaises à l'extérieur. Donc j'espère vraiment à tout cœur que l'OM va pouvoir faire revivre de belles émotions à ses supporters et c'est ce que le mérite. Donc voilà, j'espère de tout cœur.
Merci beaucoup Laurent Bonnard d'avoir été avec nous. On rappelle que Marseille est à 5 points de la place de 4e à seulement 2 journées de l'issue de la saison. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Alex. On te lit avec plaisir évidemment tous les jours dans le journal La Provence et notamment vos éditos. Vous avez suivi l'After Marseille, on se retrouvera la semaine prochaine pour se diriger vers une fin de saison des plus douces si c'est possible.
RMC, After Marseille.